France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le 11 avril 1945, le camp de concentration de Buchenwald est libéré. Non pas par les Américains, ni les Soviétiques, ni les Anglais, mais bien par les détenus eux-mêmes. Dès 1941, les déportés forment une organisation militaire qui deviendra le Comité international, composé de représentants élus de chaque nationalité présente dans le camp. C'est ce comité qui décide, après des années de préparation, de finalement lancer une action militaire coordonnée, sentant la fébrilité des Allemands et ayant détecté la désertion d'un certain nombre de SS. C'est cette libération héroïque que décrit ce 16e de 27 épisodes de la série « Le monde concentrationnaire » de Francis Crémieux, avec les témoignages du général Aéré, Roger Arnoux et Marcel Paul. Une émission diffusée pour la première fois le 17 mai 1965.
Le monde concentrationnaire. Témoignages et documents pour servir l'histoire. La résistance française dans les camps de concentration allemands. Une émission de Francis Crémieux. Aujourd'hui, l'heure de la libération dans les camps, Buchenwald. Entretien avec le général Aéré, Roger Arnoux et Marcel Paul.
Le 11 avril 1945, les détenus du camp de Buchenwald se libéraient au moment même où les avant-gardes américaines arrivaient aux portes du camp. Roger Arnoux, qui participa à cette journée de libération, nous dira ce qu'elle fut, mais auparavant, je voudrais vous demander, monsieur Arnoux, de nous dire depuis quand existait une organisation militaire à Buchenwald.
Il existait une organisation de caractère militaire dans le camp de Buchenwald depuis très longtemps, dès 1941. En particulier, les prisonniers soviétiques avaient monté pour leur compte une puissante organisation militaire parmi leurs prisonniers de guerre en particulier. Les camarades allemands avaient créé une organisation militaire ultra-secrète, très limitée du point de vue du nombre.
Qu'est-ce que vous appelez, en parlant des soviétiques, une puissante organisation militaire?
Pour eux, c'était pas très compliqué. Ils avaient des officiers de tout grade, ils avaient des simples soldats. Les officiers les plus supérieurs ont pris le commandement. Ils ont reconstitué tout simplement l'armée à l'intérieur de leur bloc parce qu'ils n'étaient pas mélangés, eux.
Que voulez-vous dire par organisation ultra-secrète militaire des Allemands?
Ils avaient une conception qui consistait à trier quelques-uns qui formaient un groupe ultra-secret et dont on cachait l'existence du groupe, même aux autres, même envers ceux en qui on avait confiance. Il est évident que ceux qui restaient après des années et des années de camp savaient bien tout ce qu'il fallait prendre comme mesure de sécurité. Ils avaient donc adopté ce système-là.
Et là, il y avait des armes?
Il est probable qu'ils disposaient déjà de quelque chose. Mais il est très difficile de le savoir.
Les Français, eux, avaient quelle conception de l'organisation militaire?
Mais les Français, arrivés en 1944, pour ceux qui participaient à l'organisation de résistance sans temps, étaient des gens qui venaient de mener la lutte clandestine sur le territoire métropolitain pendant plusieurs années. Qui avait donc une conception de la résistance telle qu'on la concevait en France, telle que le concevait le Conseil national de la résistance. Et nous partions tout simplement l'idée qu'il fallait continuer dans cet esprit-là. Nous avons pris contact au mois de mai avec nos camarades français qui étaient, eux, déjà organisés par les Allemands. On leur a dit non, maintenant c'est plus des petits groupes tout à fait isolés parmi des milliers et des milliers de détenus. Mais on va grouper toute la résistance, on va former des groupes de 3 ou de 5 dans les blocs et sur les commandos de travail, parce que l'organisation prenait un double caractère. Elle prenait le caractère sur le commando pour la journée et pour le reste du temps.
Je voudrais maintenant, Roger Arnoux, que vous raviviez tous vos souvenirs d'il y a un peu plus de 20 ans et que vous essayiez de nous dire avec le plus de détails possible ce que fut cette libération de Buchenwald.
C'est donc le 11 avril. Le 11 avril était un jour très beau, le soleil, c'était une très belle journée. Après plusieurs hésitations, dans la matinée, sur les coups de 11h30, midi, et le comité international a enfin donné l'ordre de passer à l'insurrection armée, ce que nous réclamions déjà depuis plusieurs jours. Nous savions bien que nous ne recevrions pas un stock d'armes considérable, nous avons donc envoyé notre compagnie de choc pour commencer son état-major au point qui était convenu, c'est-à-dire derrière le bloc 50 où se trouvait ce tas de charbon. Le tas de charbon a été vite pelleté. J'aime mieux vous dire qu'il y avait des volontaires pour un coup, aussi fatigué soit-il. On a déterré les armes, on n'a évidemment pas eu le temps de vérifier la part qui était donnée à chaque nationalité. Pour notre part, nous avions reçu 28 fusils et des munitions en conséquence, une mitrailleuse avec ses munitions, une caisse de grenades, des choses comme ça. Du bazooka même, je crois. Aussitôt, nos camarades sont montés jusqu'à la hauteur du bloc 39-34 et ces armes ont été remises au groupe de la compagnie de choc. Pendant ce temps, on mobilisait les compagnies, les sections des autres bataillons qui suivaient derrière, sans armes. Mais l'opération de libération du camp a commencé au début de l'après-midi, vers 2h30. Il y avait d'abord l'attaque de la porte principale du camp.
Vous n'avez pas donné une situation de l'adversaire.
Nous voyons bien que depuis le matin, il y avait des remue-ménages considérables, des évacuations, des camions, des voitures, des sit-cars qui partaient chargés de bagages. On voyait bien tout ça, on voyait des troupes qu'on ne connaissait pas parce qu'on se trouvait dans la zone du front. On entendait au loin le canon qui tonnait, on entendait même des mitrailleuses crépiter. On se doutait bien que le front n'était pas très très loin, il pouvait peut-être être à 10 km, pouvait être à 15. D'ailleurs, on savait que les Américains se trouvaient du côté d'Eisenach depuis au moins 8 jours. Le front ne bougeait plus depuis 8 jours. Enfin, il y avait énormément de mouvements de troupes aux environs du camp.
Et dans les miradors, qu'il y avait ?
Dans les miradors, il y avait toujours des sentinelles, il n'y avait rien de changé.
SS ?
Des SS ukrainiens, des Noirs. Mais en tout cas, il y avait énormément de changements, de mouvements. On ne voyait même plus les SS habituels que nous connaissions. Il y avait des gens de la Wehrmacht, il y avait des SS. C'était très, très confus. On ne pouvait pas savoir exactement. Nos camarades allemands, par exemple, avaient une vue plus claire des effectifs adverses qui se trouvaient en face. Notre objectif à nous, qui nous avait été donné par le comité international, était la porte principale du camp. Donc, la compagnie de choc française, appuyé de sections espagnoles, de quelques tchèques, d'italiens, à la tête de ce paquet, de ce groupe qui se trouvait engagé en direction de la porte du camp, était un Slovaque, Pedro, qui est de son vrai nom Lazo Oldo. C'est lui qui a entraîné tout le monde à la prise de la porte principale du camp de Buchenwald. Les groupes allemands, qu'on appelait le groupe germain, en ce sens qu'ils groupaient aussi des Tchèques, des Polonais, des Hollandais, des gens de langue allemande, étaient lancés sur la porte qui se trouve à la gauche, en regardant la porte du camp, qui est la porte de la DAV, en direction de la gare de Buchenwald. À droite, il y avait une autre porte, au fond, derrière la cantine, qui était la porte qui donnait en direction des casernes SS et des logements des SS. Cette porte, c'était les groupes soviétiques qui étaient chargés d'aller dans cette direction. Deux autres opérations étaient montées, une à l'ouest, derrière le revire, une autre à l'est, derrière le Fechtenkammer. Les cinq opérations étaient menées simultanément. Ils furent engagés environ, pour l'ensemble des cinq opérations, 700 à 800 hommes armés. Pour le groupe français, on a monté en rampant le long des blocs jusqu'aux dernières baraques possibles. Mais arrivé à une quarantaine de mètres de la porte du camp, il n'y avait plus que la place d'appel, il n'y avait plus rien. Il a fallu faire un bond, absolument, avec toutes les forces qu'on pouvait encore rassembler pour prendre la porte du camp, ce qui fut fait.
Elle était défendue.
Eh bien, la surprise a été telle que quand on est arrivé, il n'y avait que quelques SS qui n'étaient pas de ceux que nous connaissions. Parce que les cadres SS du camp n'étaient plus là, ils avaient disparu. La surprise a été totale. On a fait là, tout de suite quelques prisonniers. Et nos groupes ne se sont pas arrêtés, ils sont partis immédiatement sur la route qui conduit vers Weimar, la route du sang.
Les autres groupes?
Les Allemands sont allés en direction de la gare, de la voie ferrée. Les Soviétiques ont foncé en direction des casernes SS. Ça a duré un quart d'heure avant tout. Mais dans le quart d'heure qui a suivi, avec nos bataillons qui étaient près, nous, les Soviétiques et les autres, il y avait environ 4 à 5 000 hommes qui étaient lancés par ces trois portes qui étaient partis dans tous les azimuts, dans toutes les directions. Dans les caves des casernes SS, on a trouvé des stocks d'armes énormes. Malheureusement, la difficulté, c'est de trouver les munitions qu'il y avait avec les fusils. Trois quarts d'heure après cette sortie initiale, il y avait 5 000 hommes en armes tout autour de Buchenwald.
Combien y avait de prisonniers?
Il y a eu environ 400 prisonniers. On ne peut pas dire qu'il y a eu une véritable bataille rangée. Il y en a qui ont essayé de se défendre. On a rencontré aussi des groupes qui étaient perdus, qui ne se rendaient pas compte.
Qu'est-ce que vous avez fait des prisonniers?
On les a enfermés dans un bloc spécial du camp, qui était le bloc 17, où ils sont restés pendant 48 heures. Après, nous les avons livrés aux autorités américaines. Je dois dire une chose à propos des Américains. C'est que l'opération qui a commencé entre 2h30 et 3h, une unité de chars américains qui venait de l'ouest est passée devant la porte du camp de Buchenwald vers 4h30-5h. Et ils sont tombés au milieu de cette armée d'hommes en guenilles, en haillons, armés jusqu'aux dents. Et ils étaient ébahis, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et un avion allemand est venu au-dessus. Ils ont mis en route leur DCA. Les détenus se sont mis au sol et comme des vrais soldats. C'était très curieux. Tout le monde marchait. Enfin, ça a duré peut-être une dizaine de minutes. L'avion est parti. Les soldats sont sortis de leur char, nous ont distribué leurs cigarettes. Ça a duré quelques minutes. Ils sont remontés dans leur char et l'unité de char a continué son chemin et a disparu. On n'a plus vu d'Américains ni le soir ni le lendemain, sauf une jeep ou deux qui est venue le lendemain. Mais les Américains ont en fait pris le camp en charge le 13 avril. Et là, il a fallu qu'on leur rende toutes les armes. Ça donnait lieu d'ailleurs à une cérémonie dans l'après-midi du 13 avril, devant la porte du camp. Il a fallu que tous les détenus passent un à un devant une garde de soldats américains et déposent toutes les armes. Ça en faisait un tas énorme. Énorme. Le camp était libéré. Nous avions atteint tout de même le but. Il n'y avait pas d'extermination. Nous avions été plutôt portés à tourner nos regards sur d'autres aspects de la vie du camp. Il fallait faire vivre tout le monde. Et puis il y avait les mourants, il y avait les agonisants, il y avait peut-être 5 ou 6 000 êtres humains en train de mourir dans l'arrière-camp, dans le revire, un peu partout. Et le premier travail, ça a été de transformer les locaux des SS en hôpital et transporter tous ceux qui n'en pouvaient plus, qui étaient sur le point de mourir d'ailleurs. Beaucoup sont morts encore dans ces jours de la libération du camp.
Les SS prisonniers, m'avez-vous dit, ont été remis aux Américains. Mais comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas eu une justice expéditive? L'idée de vengeance, l'idée de justice, ne vous travaillez pas?
Si, mais l'idée de rendre la justice nous-mêmes n'est pas venue. Non, n'est pas venue. Si on avait eu nos SS, oui. Si on avait eu nos SS, si.
C'est une des raisons pour lesquelles vous les avez remis aux Américains.
Ah oui, c'est la seule d'ailleurs.
Et dans le personnel, alors, non pas auxiliaire des SS, mais dans le personnel capot, gens qui vous tapaient dessus, est-ce que vous avez fait un peu de justice expéditive?
Il s'en est produit, c'est sûr. Mais d'une façon non contrôlée, on n'a pas créé, par exemple, un conseil de guerre des détenus pour juger des capots, des gens qui ont frappé, qui ont battu. Non, on ne l'a pas fait.
Comment expliquez-vous précisément cette absence, je ne dirais pas de justice seulement, mais d'esprit de vengeance?
S'il y a eu quelques capots qui se sont fait corriger, qui se sont fait peut-être même massacrer, ce sont les détenus qui ont fait ça à droite et à gauche comme ça, parce qu'ils rencontraient des types, mais pas à l'échelle du camp. Et cela s'explique à mon avis par l'enthousiasme de la libération. D'ailleurs, les pires avaient disparu, même les capots.
Après ce reportage de Roger Arnoux sur la libération de Buchenwald, je voudrais demander au général Ayret de clore le chapitre militaire de l'histoire de la résistance française dans le camp de Buchenwald. Il ressort de tous les témoignages que nous avons entendus, mon général, que la résistance militaire a accompli un effort prodigieux pendant des années.
Évidemment, cet effort qu'a fait l'organisation pour participer au combat, car il est certain que cette organisation le voulait et le désirait, je crois que c'est important. Mais ce qui est plus important encore, et c'est vrai pour la masse des résistants qui étaient là-bas, c'est que cette masse de résistants est continuée à ne jamais, même ceux qui n'ont pas été dans les groupements armés ou qui avaient l'intention de s'armer au moment du besoin, que dans l'ensemble, la masse des résistants, il y ait eu d'une façon absolument permanente jusqu'au bout et à tout moment, et dans les cas les plus graves, cette persistance de la volonté de ne pas se laisser abattre, de croire dans la victoire finale et de ne pas, excusez-moi du terme, mais se dégonfler devant les Allemands, de garder sa dignité, même si la mort était à quelques heures près. Et ça, je crois qu'on peut dire que, tout au moins pour le camp de Buchenwald, puisque c'est le seul que j'ai connu, ce résultat a été atteint. Il y a une profonde unité de tous les gens de la résistance, une unité de fond, bien sûr, à la surface, comme toujours, il y a eu des différences d'opinion sur des problèmes, sur des personnes, sur des choses. Mais enfin, cette unité que dans la résistance métropolitaine, qui avait elle aussi ses oppositions, on sentait qui était symbolisée, et, comment pourrait-on dire, même polarisée par le général de Gaulle de Londres d'abord et d'Alger ensuite, eh bien, cette unité profonde de la résistance est, je crois, l'apport le plus grand qu'on a pu faire à la résistance internationale, où d'ailleurs on a constaté dans les autres pays des phénomènes analogues. Et il est évident que, dans des conditions aussi extraordinaires, on a pu constater, comme toujours, que les différents peuples avaient leurs différents caractères. Les Russes ne se sont pas conduits exactement comme les Polonais comme les Tchèques comme les Français comme les Belges. Je crois qu'on peut dire que le Français, là-bas, a poursuivi la résistance avec son caractère véritablement de Français, sa volonté farouche de ne pas vouloir céder, mais en même temps avec cette gouaille, cette bonne humeur, cette manie de plaisanter qu'on pousse jusqu'au dernier moment et que, je crois, on a souvent prêté au poilu de 1915 dans les tranchées.
Monsieur Marcel Paul, à quelque parti qu'ils appartiennent, à quelque formation de résistance qu'ils appartiennent, tous vos camarades de Buchenwald vous reconnaissent comme l'un des animateurs de la résistance française dans ce camp. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de conclure cette émission sur la libération de Buchenwald.
Du fait de l'aide des antifascistes allemands, l'organisation de la résistance a sans doute été plus facile à réaliser que dans d'autres camps. Dans les moments où l'insurrection s'est déclenchée, personne n'avait la possibilité de dire quel allait être l'acte final auquel les SS pouvaient se résoudre. Il y avait danger d'extermination jusqu'à la dernière minute, et je veux d'abord rappeler que les organisations de la résistance française, soviétique et espagnole, avaient soutenu dans les comités internationaux l'idée de déclencher plus rapidement. Je dis cela seulement pour marquer qu'il ne s'est pas agi d'une explosion à un moment donné, il s'est agi d'une décision délibérée pour sauver ce qui restait d'hommes dans le camp. Les Français étaient unis sur les problèmes essentiels comme les doigts de la main. Évidemment, il y avait débat, il y avait quelquefois supposition d'intention, mais lorsque les questions de fond étaient abordées, le bloc se refaisait et ce bloc était total. L'image en a été donnée par la dernière réunion du comité des intérêts français à Buchenwald. C'était 4 ou 5 jours après la libération du camp, et les Américains étaient là, les déportés étaient par conséquent absolument libres. Cette session du comité français a affirmé l'unanimité absolue sur les conditions du combat, sur les mesures que le comité français et le comité international avaient été appelés à prendre pour assurer la défense des hommes et les maintenir dans la bataille contre l'ennemi. Le serment sur la place d'appel a été une autre confirmation, plus émouvante celle-là, puisqu'elle était internationale. Un texte avait été élaboré, âprement discuté, mais on a senti, lorsque les rescapés ont été réunis sur la place d'appel et lorsqu'ils ont été invités à prêter le serment, que ces débats étaient bien secondaires et que le fond était l'affirmation des objectifs des buts pour lesquels, en commun, les résistants de tout pays avaient lutté, et leur volonté affirmée par le texte de continuer la lutte jusqu'à ce que les racines du fascisme et du militarisme soient à jamais extirpées. Ce serment est resté une charte vivante, on pourrait dire une charte écrite, hélas, avec du sang, puisque ce serment était prononcé au nom de tous les camarades tombés dans le combat, et ce serment continue à être non pas seulement la loi d'action des anciens de Buchenwald, mais l'on peut dire la loi d'action des rescapés de tous les camps. Dans les heures que nous vivons, ce serment est peut-être encore plus vivace au cœur de chacun, car il y a des revendications territoriales de retrouver les frontières de 1937, considérées comme l'affirmation, la démonstration que le militarisme allemand n'a pas renoncé. Alors, dans le moment, ce serment de Buchenwald retrouve une acuité, je dirais une fraîcheur de sentiments qui était celle habitant le cœur des rescapés de Buchenwald lorsqu'ils se sont affirmés en levant la main sur la place d'appel en ce jour d'avril 1945 qui est passé dans la légende.
C'était la résistance française dans les camps de concentration allemands, une émission de Francis Crémieux. Assistant, Gilbert Maurice Duprez.
C'était La libération des camps Buchenwald, le 16e de 27 épisodes de la série Le monde concentrationnaire, avec les témoignages du général Aéré, Roger Arnoux et Marcel Paul. Première diffusion le 17 mai 1965 sur France Culture. À suivre.